Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut, c'est Daryl et tu t'apprêtes à écouter la vraie interview de Bouscapé. Notre format d'interview dans lequel on revient longuement et sans concession sur la carrière d'une personnalité, qu'elle soit producteur, rappeur, acteur ou sportif. Bonne écoute.
Comment vas-tu ?
Je vais bien. Je vais bien. Un peu, c'est un peu la course avec les répétitions pour la cérémonie du Ballon d'Or de lundi. Mais ça va.
Justement, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui et à quelle occasion on fait cette interview ?
Alors, nous sommes dans les bureaux de l'équipe et de la famille Amaury qui organise en fait tous les ans maintenant la cérémonie du Ballon d'Or.
Tu en as parlé et on le voit depuis même bientôt 3 ans, puisque ça sera la 3e cérémonie, si je ne dis pas de bêtises. Comment tu as été amené à être ambassadeur du Ballon d'Or et à être propulsé à ce poste de maître de cérémonie ?
Alors, je pense que c'est une idée du groupe, parce que j'avais une relation assez particulière qui date quand même de pas mal d'années avec Pascal Ferré et puis de très bonnes relations avec les autres comme Jérôme Saporito, tout ça. Et ayant été un ancien protagoniste du Ballon d'Or, puisque j'ai fini 4e en 2007, que j'étais tout le temps, avant chaque Ballon d'Or, j'étais dans les oreilles de Pascal Ferré pour savoir mon classement, si j'étais sur le podium, si j'avais gagné, si j'étais dans les... Je pense que ça a dû lui parler, il s'est dit, bah, tiens, tu sais quoi, on va redonner une nouvelle image, un nouveau souffle au Ballon d'Or, et puis on va essayer d'impliquer un ancien joueur. Et lorsqu'ils m'ont proposé ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était, ça reste toujours dans le cadre du foot, mais c'est une autre facette, c'est un autre exercice. Et ça m'a, j'ai voulu relever le défi pour voir un peu comment je peux me comporter dans ce genre d'environnement.
Justement, être maître de cérémonie dans ce genre d'événement, c'est pas du tout évident.
Ah, c'est pas évident du tout.
C'est très compliqué.
Ah, c'est pas évident.
Toi, tu te sentais capable de relever ce défi quand tu l'as
proposé ? Je me sentais pas capable. Je me suis dit, tiens, je vais essayer parce que c'est. En fait, je suis quelqu'un qui aime relever les défis. Et puis, ça passe ou ça casse, mais au moins, j'aurais eu le courage de le faire. Au début, j'étais chaud. Et puis, lorsque on me montre le script et tout ça, je dis, ah ouais, donc ça va être comme ça. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est la présence de Sandy, qui, elle, a de l'expérience dans le journalisme et puis dans la télé. Donc vraiment, elle m'apporte ce côté valeur sûre que je n'ai pas dans ce cadre-là. Et puis voilà. Et puis moi, j'ai peut-être ce rapport, cette proximité avec les joueurs qui fait que ça fait une bonne combinaison.
Tu as l'impression d'être plus rodé là, à l'approche de ta 3e cérémonie ?
Un peu plus d'expérience, parce que j'appréhende maintenant la cérémonie de manière différente. La première, c'était allez, bon, ça passe ou ça casse. Puis la deuxième, c'est la première était bien, là, faut être à la hauteur. Et puis là, la troisième, je me dis ok, la pression aujourd'hui, c'est pas la pression de faire la cérémonie extraordinaire, c'est de faire une belle cérémonie. Faut que je sois bon. Donc, on travaille beaucoup pour ça et on espère avoir un bon rendu lundi soir.
Entre la Côte d'Ivoire et la France. On va profiter de cette interview pour parler un peu de ton parcours. Là, on se trouve à Paris et une grande partie de ton histoire s'inscrit en France, mais elle démarre quand même logiquement en Côte d'Ivoire.
Oui.
Toi, est-ce que tu as des souvenirs d'enfance à Abidjan et plus précisément dans le quartier d'Opogon ?
Ah, j'ai une tonne de souvenirs. Pourtant, j'étais jeune. Mais non, j'ai une tonne de souvenirs, ne serait-ce qu'avec mes parents, les endroits où j'allais jouer les petits tournois de petits poteaux avec mes cousins, où on rentrait ensuite le soir, on était sales et je me faisais ramasser par le daron ou la grand-mère. Ça, sont des souvenirs indélébiles. Et c'est peut-être ce qui a fait que plus tard, lorsque j'ai eu le choix de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et de France, c'est ce qui a fait la différence, parce que je suis très attaché à ces souvenirs-là et puis aux valeurs que mes parents m'ont inculquées pendant cette enfance.
Tu as parlé de souvenirs relatifs au foot. En termes de licence, tout ça, ça commence en France, mais là, tu viens de me raconter que ta passion, elle émerge quand même en Côte d'Ivoire. Elle émerge comment ?
Ouais, elle émerge parce que devant la maison, devant la cour commune, c'est même pas une maison, devant la cour commune, il y a un petit espace là où les après-midi, ou les week-ends, on se retrouve tous entre jeunes du quartier à faire des matchs. Et puis au final, on est tellement nombreux qu'on est obligé de faire des tournois. Donc on prend une bouteille en plastique, on la coupe en deux, et le haut de la bouteille, on le met à l'envers, donc ça fait comme un entonnoir. Et puis chaque équipe achète des bonbons, on met tous les bonbons dedans, et puis voilà, ça fait le trophée, par exemple. Et au fur et à mesure, on arrive à cotiser suffisamment pour s'acheter un petit ballon en plastique. On est super content.
Dans quelles conditions tu pars en France ?
Dans de très très bonnes conditions. Je pars avec mon oncle qui lui était professionnel en France, à Brest, parce qu'il venait, il est venu à plusieurs reprises en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et moi j'étais fasciné, j'étais curieux, je me disais, ouais, il va en France et tout, c'est comment la France, c'est où, et j'ai envie d'y aller. Quand il part, à chaque fois je suis déçu, j'ai envie de partir avec lui. Et puis le jour où ça arrive, où finalement il dit, oui, je peux te prendre avec moi, le départ est plus difficile que prévu, parce que j'ai quand même 6 ans. Et c'est un départ difficile, mais quelle aventure aujourd'hui.
Là, on parle de Michel Goba depuis tout à l'heure, qui était footballeur pro, notamment à Brest.
Oui.
Comment tu vis cette période où en fait, tu le suis au travers de son parcours sportif, où tu transites de ville en ville avec lui ?
Bah, il y a d'abord le blues, parce que mes parents me manquent. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de... Puis les lignes n'étaient pas forcément aussi claires que maintenant. Donc c'est un appel tous les mois ou toutes les 3 semaines quand tu arrives à parler aux parents. Et quand la conversation dure 10 minutes, c'est exceptionnel, mais ça coûte cher. Je découvre en fait un pays, une nouvelle culture. Et de nouveau camarades de classe, mais surtout je vais voir mon oncle jouer, et là c'est pour la première fois je me retrouve dans un stade de football, et là c'est la découverte, quoi. Là je me dis, wow, c'est un truc de fou, l'interaction avec le public, les joueurs, un débordement, les gens se lèvent, une frappe, les gens applaudissent, et je dis, wow, c'est ce que je veux faire. Moi, je vais faire kiffer, je vais faire ça, je veux que les gens réagissent quand je veux faire ce métier, en fait.
Et ce blues concernant ta famille, t'arrives à le combler en rentrant en Côte d'Ivoire lorsque ton titre de séjour...
Exactement.
Okay.
Exactement. Je, par la force des choses, je rentre en Côte d'Ivoire et je retrouve mes parents, et je me retrouve à nouveau dans un environnement où... Bah, je suis jeune, quoi. Je suis content de retrouver mes parents, de voir mes cousins, de voir que mes sœurs ont grandi, ma sœur a grandi, que j'ai une autre petite sœur et tout qui est là. Donc je suis bien.
Et quand tu reviens en France par la suite, t'as le football dans un coin de ta tête ?
Oui, j'ai le football dans un coin de ma tête, mais c'est pas quelque chose d'omniprésent, non. C'est dans un coin de ma tête, parce que quand je retourne en Côte d'Ivoire, mais je continue ces tournois là avec mes cousins et tout. Donc, mais pas là. Par contre, je sais pas. Je me dis pas, ouais, je veux devenir. Ah, il faut que je devienne professionnel. J'ai envie de devenir professionnel. Non, je vais à l'école. D'abord, on est à Angoulême. On reste pas longtemps, mais ensuite je pars à Dunkerque. Et C'est d'ailleurs là que je signe ma première licence. Mais c'est la première fois que j'ai un équipement, l'équipement, les survêtements qui est le même que les pros et tout. Et là, tu dis, ouais, première licence, joueur arrière droit, je suis content. Je vois l'équipe jouer des matchs en D2. Tout part de là, en fait.
Et pourquoi ce début en arrière droit?
Parce que moi, je me suis jamais posé la question, en fait.
C'était par défaut?
C'est... J'avais pas de place, en fait. Je savais pas si j'étais un attaquant ou un milieu ou un arrière-droit, je savais pas. Donc, j'arrive et puis le coach me met arrière-droit, peut-être parce que j'ai pas souvenir, mais je pense qu'on manquait de joueurs à ce poste, peut-être. Et il se trouve que je me débrouille plutôt bien, un peu à la Cafou. je prends vraiment le couloir et je marque des buts sur coup de pied arrêté, avec mon pied gauche. Et mon oncle, un jour, vient me voir jouer et il dit « Ah non, 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 mais c'est, chez nous, c'est pas comme ça. Nous, c'est des avant-centres, des attaquants et tout. » Sauf que là, je peux pas dire au coach « Eh non, en fait, moi, je suis avant-centre. » Alors, je me dis « Qu'est-ce que tu racontes ?» Et donc, je finis la saison et quand on déménage et quand on arrive à Abbeville, quand j'arrive là-bas, je dis au nouveau coach « Oui, je suis avant-centre. » Alors, j'ai jamais joué devant. Et là, je plante but sur but et tout. Voilà. Parce que je sais comment se comporte un défenseur. Et donc, je me retrouve dans une situation où je suis attaquant maintenant et je sais comment les prendre à défaut. Et puis, voilà, ça démarre.
En tout cas, c'est à ce moment-là que tu commences, en tout cas, tu entames ta formation en école de foot. Donc, tu l'as dit, il y a Abbeville qui subit malheureusement un dépôt de bilan. Il y a l'US Tourcoing, il y a Vannes. Et après, il y a un petit
peu. Mais c'était pas en centre de formation.
Ouais, hein.
C'était vraiment dans le club, je rentre chez moi, je fais mes devoirs, je vais à l'école.
Exactement. Voilà. Alors, le terme école de foot, vraiment.
Par semaine, voilà.
Voilà, le foot comme un jeune de ton âge à l'époque. Quoi.
Exactement, exactement.
Et après, il y a un petit événement quand même en 91, c'est l'arrivée de tes parents en France,
oui.
Qui n'ont pas du tout le même positionnement concernant le foot.
Oui.
Oui.
Oh, déjà bien avant.
Ouais.
Déjà bien avant, puisque. À l'âge de 13 ans, je devais intégrer Clairefontaine. Et mon père n'a pas voulu. Donc il a reçu une lettre pour que je fasse les essais pour ensuite pouvoir intégrer. C'était l'INF. Et le vieux a dit non. Il a dit non, 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 moi je ne l'ai pas emmené en Côte d'Ivoire, en France pour ça, je l'ai emmené là-bas pour les études. Donc ça ne s'est pas fait. J'en ai voulu au début. Et puis après, j'ai dit merci.
Et il avait compris là, ce que représentait Clairefontaine ou c'était vraiment cette volonté?
Non, il ne savait pas. Lui, c'était le foot. Parce qu'en fait, son frère, donc Michel Goba, à l'époque, jouait en Côte d'Ivoire à l'Africa Sport. Et lorsqu'ils l'ont pris, ils ont fait croire à mon père qu'il allait allier études et football. Et en fait, ça n'a jamais été le cas. Donc ça lui est resté. Quoi. Donc il a dit non, 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 lui, il va là-bas, c'est pour étudier.
En tout cas, eux, ils vont vraiment privilégier les cours, l'école.
Oui.
Et ils vont notamment te priver de foot pendant un an.
Oui.
Toi, à ce moment-là, est-ce que tu abandonnes un peu ce sport dans ta tête? Ou est-ce que tu te dis que c'est passager, que ça peut enchaîner?
En tout cas, je suis très déçu. Parce que, en fait, c'est la période de l'adolescence. Mes parents me manquent. Je traverse une petite période difficile et donc je redouble. J'arrive dans une nouvelle ville, j'ai pas réussi à m'adapter, puis ça se passe pas très bien avec les cours et je suis pas vraiment là quoi. Donc je pense que j'ai le mal du pays et de mes parents. Donc je redouble. Et donc, vu que la priorité, c'était pas le football, on m'a donné tout le temps aux études. Et moi-même, ça m'a piqué parce que j'avais toujours été un bon élève. Et le fait de redoubler, c'était un peu comme un petit trauma. Donc, limite même, j'ai dit, bon, c'est pas grave. C'est une sanction, mais en fait, moi, c'est ma sanction à moi-même aussi, quoi. Donc, je me concentre sur mes études et puis, parce que je veux pas, c'est pas possible que je redouble. Donc je me suis remis à bosser, j'étais à Poitiers, et pas de foot. pas de foot. Et donc ça se passe très bien, je retrouve un niveau correct. Et l'année d'après, je vais à Levallois m'installer avec mes parents.
Premier pas en pro. Et comment, en prenant en compte tout ce qui s'est passé avant, t'es amené à signer au Mans après?
Je joue à Levallois pendant, je crois, 3 ans et demi. Ou 4, 3 ans ou 4 ans, je crois. J'ai fait moins de 17, junior, et je crois une année avec l'équipe première. Et c'est de là, en fait, que tout part. Mon entraîneur à l'époque, qui est maintenant décédé, malheureusement, Jacques Loncard, appelle les dirigeants du Mans et leur dit que j'ai un attaquant à vous proposer, et puis voilà comment les choses se passent, quoi.
Et j'ai vu qu'ils avaient accepté sans même te voir jouer, parce qu'ils avaient pris conscience, ont pris note que tu avais été notamment courtisé par le PSG.
Non, en fait, ils ont des recruteurs un peu partout en Île-de-France, et j'avais été convoqué pour une sélection Île-de-France. Et encore une fois, mon père a dit « Niet, tu vas pas ». Sauf que j'ai oublié de leur... Enfin, je n'aurais pas envoyé de réponse pour dire « Je suis désolé, je ne peux pas venir parce que mon père ne veut pas, je ne peux pas faire ça ». Donc, et le responsable, à l'époque, c'était Alain Pascalou, que j'ai retrouvé ensuite au Mans en tant que responsable des jeunes. Donc, ils avaient entendu parler de moi, mais par contre, ils ne m'avaient pas vu jouer. Et les retours qu'ils avaient étaient plutôt positifs, donc ils ont fait confiance à un de leurs recruteurs, entre guillemets, qui était Jacques Loncard.
On n'en a pas parlé, mais comment tu parviens à convaincre tes parents de te laisser partir là-bas? Est-ce que tu dois poser des arguments concrètement sur la table pour qu'ils te laissent t'envoler partir au Mans?
Bon, en fait, ils ont suivi quand même tout ce qui se passait. Ils ont vu que à Levallois, j'étais vraiment investi, et les arguments que j'ai posés sur la table, c'était travaille bien à l'école, tu peux jouer. Donc, tant que tout allait bien, j'avais cette balance. Et puis, de l'autre côté, ce que je faisais, j'envoyais des CV à tous les clubs de première et deuxième division. Et ils m'ont vu faire ça. Ils me voyaient écrire les lettres. Donc, ils ont vu à quel point j'étais déterminé. Et lorsque j'ai cette opportunité à 19 ans, de... Je ne dirais pas m'émanciper, mais de prendre mon envol et quitter la maison, bah, ils m'ont encouragé.
Et est-ce que tu arrives à vivre convenablement à l'époque? Parce que tu étais quand même stagiaire au Mans, mm-hmm. et en parallèle, tu devais dealer avec des études de comptabilité.
Écoute, normalement, ce n'est pas quelque chose de compliqué, puisque les entraînements avaient lieu en soirée, et toute la journée, on était au lycée. Moi, dans mon cas, c'est le changement entre milieu amateur et milieu professionnel qui m'a coûté, dans le sens où j'étais tout le temps blessé. Et quand tu as un objectif qui est de ne plus revenir à la cité, de réussir, et que tu es blessé psychologiquement, c'est plus dur d'aller en cours. C'est plus dur d'être focus sur les mots du prof. Et tu ne penses qu'à une chose, c'est quand est-ce que je vais revenir? Parce que tu vois tes potes en train de s'entraîner tous les jours, et toi, tu es là, tu ne sers à rien. Et donc, inconsciemment, tu commences à déconnecter, mais heureusement que tu as des personnes comme Mark Westerlove, comme Yves Bertucci, comme Alain Pascalou qui sont derrière. Et qui, bon, y en a un qui était dur avec moi, et les autres qui étaient derrière un peu plus souples. Donc, c'était une belle équipe. Qui a réussi comme ça à me manager et puis m'accompagner vers le professionnalisme.
Parce que tu l'as dit, mais au cours de ces deux saisons, tu te fractures deux métatarses.
J'ai tout fait.
Un péroné, une cheville. Et j'avais même...
Deux péronés.
Ok. J'avais même vu que t'étais très léger niveau endurance, que tu pouvais être très facilement fatigué.
Mais j'avais pas d'endurance, c'est-à-dire qu'en région parisienne, tu travailles où ton endurance?
On fait des stages de pré-saison en général. Mais dans d'autres régions.
Où?
En Normandie.
Mais quand tu joues à Levallois-Perret, tu fais où
Ah, c'est compliqué. Après, tu...
Tu vois?
Ouais. Tu considères qu'en Ile-de-France, même les gens n'avaient pas de conditions par rapport à...
Non, moi je ne parle pas en Ile-de-France. Je parle de mon club.
Ah, ok.
Du club où j'ai évolué, à Levallois. Je reprenais la saison. Et j'ai rejoint l'équipe première là, qui était en national en cours de saison. Donc moi, j'étais en junior et puis on faisait jouer en équipe première. Donc j'ai pas connu tout ça. J'avais pas le temps, moi, de faire tout ça. J'habitais à Antony. Donc j'allais en cours à côté de Bourg-la-Reine. Et après les cours, je prends le train et je vais à l'entraînement. Je viens ici, donc je fais 1h30 de RER B et métro pour aller à l'entraînement. Donc à quel moment je vais faire ces footings, cette préparation? Non, moi j'ai des cours derrière le lendemain matin. Donc je rentre à minuit et quart à Antony. Et le lendemain matin, je suis debout, en train de courir pour choper le RER B au Baconnet et puis me rendre à Bourg-la-Reine pour aller en cours. Donc difficile d'avoir... Tu vois, ce truc où, OK, je vis, je mange, je dors, football. Non, c'est une autre vie. C'est, comme disent les Américains, c'est le hustle. Donc, c'est en arrivant au Mans que je découvre tout ça. Après, mon premier footing, je le fais avec des Air Max. Tu vois, je le fais avec les requins, là, t'as déjà vu un mec faire un footing de 20 minutes avec des requins, ça n'a pas de sens.
Surtout pas en semi-pro.
Parce que t'es à la porte du professionnalisme, ouais. C'est un club professionnel. Donc quand je débarque avec ça, t'es à Paris, quoi. T'es pas à Châtelet ou un truc comme ça. Donc, après, ils m'ont donné des chaussures adaptées, et donc c'était une découverte, et mon premier footing, je finis 5 minutes après les autres. Les autres, ils ont déjà commencé l'autre exercice que moi, je suis encore dans le bois en train de courir. Quoi. Donc psychologiquement, c'est dur. J'ai un retard à rattraper parce que je n'ai pas fait de formation. La plupart, là, ils sont là depuis 14-15 ans. Donc je pars avec un gros handicap. Et donc j'ai dû construire tout ça. Et voilà, ça faisait beaucoup de choses à faire en même temps. Quoi.
Et tu as réussi à relever la pente quand même?
Ouais, difficilement, parce que comme tu le dis, il y avait toutes ces blessures. Les deux métatarses, je me casse la cheville, mais gravement, où j'ai la cheville, je lève la jambe, j'ai la cheville qui pend de l'autre côté. Gros problème au genou, fracture du péroné à gauche, je récupère, j'arrive en pro. Tout commence à aller, je vais certainement être titulaire la saison qui démarre, boum, fracture du péroné. Le coach s'en va, mauvais résultat. Arrive un autre attaquant, je me retrouve sur le banc. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça où tu sais que quand tout va mal, rien ne va mieux. Donc je suis là, j'enchaîne. Et puis, mais en même temps, c'est vrai que je n'étais pas un exemple de professionnalisme parce que ouais, je pense que dans ma tête, il m'a fallu du temps pour digérer tout ça, il m'a fallu du temps pour comprendre et pour accepter les critiques que me faisaient mes éducateurs. J'en parlais la semaine dernière avec eux, je leur disais que heureusement qu'ils ont été là, parce que moi j'arrive de la région parisienne, pour moi, j'arrive dans un club professionnel, moi je suis pro. Je faisais tout comme des pros, je me prenais pour un pro, sauf que j'étais pas pro. J'avais pas le salaire du pro, j'avais pas les chaussures les 6 paires de chaussures des pros, j'avais rien des pros, mais je me prenais pour un pro.
T'avais pas intégré que c'est maintenant que le plus dur commençait, quoi?
J'avais pas intégré ça, parce que quand l'équipe première, quand un joueur est blessé en équipe première et qu'ils ont besoin d'un attaquant, on me fait monter. Et quand j'arrive là-bas, je casse tout. Mais je casse tout, tout le monde me regarde, ils me disent « Waouh, mais c'est qui ce mec ?» Puis après ça, je retourne avec la réserve, et puis voilà, quoi, tranquille, et puis je reprends mon rythme, les allers-retours à Paris, les sorties, les soirées Ligue des Champions avec du Yop, je suis au Yop, et voilà, pizza ou des trucs comme ça, donc il n'y a personne pour me surveiller. Tu vois, et j'avais pas encore intégré que j'étais mon propre, surveillant, en gros, quoi. Fallait que je devienne autonome et responsable. Et c'était pas le cas.
Et après, il y a le moment de la vraie révélation, c'est à Guingamp. Est-ce que tu te souviens des conditions, du moins du climat de l'époque, quand tu débarques dans ce club?
Donc pour moi, excuse-moi, la vraie révélation, c'est les 6 derniers mois au Mans.
OK.
Où je reviens de ma blessure et puis je fais une demi-saison où je suis remplaçant, je ne joue que 10 minutes, 15 minutes, mais quand je rentre, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que j'ai intégré le fait que je n'aurais peut-être que 10 ou 20 minutes de jeu, mais comment les mettre à profit? Comment me faire voir dans ce court laps de temps? Et donc, je passais la première mi-temps et puis les 15 minutes, 20 minutes d'échauffement là, à observer les défenseurs adverses, à observer les milieux de terrain adverses, à observer le gardien. Et je me faisais en fait une propre analyse de tout ça. Et je dis, OK, lui, le défenseur là, OK, il est grande taille. Donc ça veut dire qu'il est lent. Donc il faut que je fasse des appels dans son contre-pied pour gagner un peu de temps. Ah, il est petit, il taille. OK, je peux jouer avec mon physique. Et je commençais à intellectualiser le truc. Et je marque. Donc je me trouve à 6 buts en une demi-moitié de saison, alors que je joue à peine des bouts de match, mais des buts contre des équipes, de grandes équipes historiques comme Saint-Etienne, Bastia, tout ça, donc Guignon, et je pense que c'est là que tout bascule. Lorsque l'opportunité se présente pour Guingamp, ils sont à la recherche d'un attaquant parce que Fiorez va à Paris.
Plus blessure de Guivarche.
Guivarche se blesse. Guy Lacan, qui m'avait vu jouer encore 15 minutes à Guingamp, pour un Guingamp Le Mans, avait flashé à l'époque. Donc il avait mis quelqu'un pour me suivre. Mais je me suis blessé, cassé le péroné, donc ils ont laissé tomber. Et là, il suivait, il revoyait quelque chose qui l'intéressait. Donc dès que l'opportunité s'est présentée, mais il a sauté dessus.
Tu gardes quoi comme souvenir de ton passage à Guingamp?
Tu montes dans l'avion, t'attaches ta ceinture et puis t'attends qu'on décolle. Et puis quand on décolle, tu te dis allez, c'est parti. Guingamp, c'était ça. C'était un an et demi. Les premiers mois où j'arrive en janvier, ça a été on cherche vraiment, ça me vient comme ça, hein. On cherche la porte d'enregistrement et tout, faut qu'on arrive à l'heure, faut qu'on enregistre les bagages sont enregistrés, faut que tu cours, tu passes le contrôle, en gros tu le maintiens, donc tu te maintiens, et puis après on te dit OK, c'est bon, vous êtes dans l'avion, vous êtes enregistré et vous allez décoller. Et c'est la saison 2002-2003, c'était le décollage et c'est une sensation forte. Ouais.
En tout cas, avec Guingamp, il y a quelque chose qu'on peut, un aspect en tout cas qu'on peut raccoler aussi avec l'Olympique de Marseille, c'est cette faculté à t'imposer en une saison. Est-ce que tu as conscience que tu fais partie en fait d'une petite partie de joueurs, d'une petite catégorie de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir réussi à convaincre que ça soit ses collègues ou encore même un club de supporters en une saison?
Je m'en rends compte de plus en plus parce que plus je croise les gens que je croise me disent mais t'as fait qu'un an, mais comment t'as fait, mais moi en fait quelque part c'est normal. Et vraiment sans prétention aucune, mais c'est mon passé qui m'a préparé à ça. Comme je l'ai dit, mon oncle était footballeur professionnel, mais à l'époque, il était en fin de carrière, donc il avait des contrats de un an par-ci, un an par-là. Donc, à chaque fois, je dois changer de ville, je dois me faire de nouveaux amis à l'école, de nouveaux amis dans le club de foot, nouvel environnement. Donc, je pense que inconsciemment, tout ça m'a préparé à cette capacité à d'adaptation immédiate. Et Dieu merci, parce que c'est vraiment pas facile d'arriver dans un nouveau club et de faire face à autant d'adversité. Parce que Guingamp, au bout de 3 mois, on maintient le club et le nouveau coach me dit, Guy Lacombe s'en va. Donc le gars qui me fait venir en janvier s'en va en mai. Et le nouveau coach me dit, merci mon gars, t'as réussi à faire maintenir le club, t'as aidé le club à se maintenir, mais t'as pas le niveau de la L1, faut que tu cherches un club. Quand on te dit ça, c'est le même truc que, ouais, j'ai pas envie de retourner à la cité ou un truc comme ça, mais là, j'ai pas envie de retourner en D2. parce que c'est la guerre là des deux. Donc j'ai goûté un peu, c'est comme si on te fait goûter au caviar et puis le lendemain on te donne des œufs de, tu vois, tu vas sentir la différence. Donc je me suis battu pour rester, pour exister à Guingamp et puis bien m'en a pris puisque la saison a été exceptionnelle.
L'OM. Lorsque tu arrives à Marseille, tu n'as pas l'impression, même si tu as parlé de décollage à Guingamp, que c'est la première fois que tu arrives dans un club en tant que vraiment star.
J'arrive pas en tant que star à Marseille.
Tu trouves pas ?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'arrive. La star à Marseille, c'est Mido, qui vient de l'Ajax, qui est un grand joueur, un grand joueur en devenir. Et sa signature, sa présentation, c'était quelque chose de fou. Je sais pas si vous avez. Mais c'était quelque chose de fou. Moi, j'arrive de Guingamp. Donc les gens se disent, OK, lui, il a mis ses 17 buts à Guingamp, c'était un petit club, c'est normal. Est-ce qu'il peut faire la même chose à Marseille ? Mido, il arrive, et Marseille dit, waouh, on a Mido qui arrive. Tu vois, c'est différent. Et donc, j'ai encore tout à prouver. Donc c'est un autre défi à relever.
En tout cas, t'en mets 32 en 55 matchs.
Ouais.
Quand on parle de cette époque Marseille, est-ce qu'il n'y a que le but de Newcastle qui te vient en tête ou
non, de ce là, non, 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 non. Quand on parle de cette époque à Marseille, il y a d'abord le stade Vélodrome qui me parle. Il y a l'aéroport de Marignane. Il y a les supporters. Il y a Pape Diouf. Il y a beaucoup de choses. Et cette demi-finale qui pour moi est la preuve qu'on peut contrôler. On peut prendre son destin en main. OK, on peut écrire sa propre histoire. Et ce scénario, en fait, après, il faut que toutes les étoiles s'alignent, mais je l'ai pensé plusieurs fois. Ce geste, je l'ai tenté plusieurs fois à l'entraînement, dans des matchs qui s'est passé inaperçu. Mais les deux buts que j'ai marqués ce jour-là, ce sont deux actions que j'ai répétées. Boum, boum, tac, passe derrière la jambe, frappe du gauche. Et le matin du match, j'avais fait une petite séance légère parce que je ne me suis pas entraîné les deux jours précédents pour voir si je pouvais jouer. Et le geste que je fais sur le premier but, je mets en place un exercice. Donc je mets deux plots, dribble à droite, dribble à gauche. Au sortir de ça, je la passe derrière la jambe, enroulé pied gauche, petit filet. Je fais l'autre côté. Tac, tac, tac. Passe le ballon derrière le pied gauche, derrière le pied droit, enroulé pied droit. Et je lui dis, ah, c'est pas, ah, ok.
Okay. Je répète tout seul ce geste.
Ok. Ce soir, je tente. C'est parti. Si tu regardes bien, le défenseur, je le bats en vitesse pure, mais j'attends qu'il revienne pour faire ça. Donc, j'ai la sensation de dire, c'est moi qui contrôle. Ce match-là, là, c'est moi et personne d'autre. Puis, il y a la place. Hein, vous voulez marquer, vous marquez. Mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais faire ça.
Chelsea. Tu m'as dit que tu n'étais pas une star quand tu arrivais à Marseille. Tu as quel statut quand tu arrives à Chelsea ?
Peut-être star en France, mais encore personne à l'international. Voilà, il me faut le stamp de la Première Ligue, quoi. Qui est le championnat, pas encore le championnat le plus réputé, le plus relevé, mais qui va le devenir dans les années qui suivent. Et je suis une star parmi toutes les stars, si on aussi. En gros, il n'y a pas qu'une star, mais il y en a 24. Robben, Kezman, Lampard, Terry, tous des joueurs qui ont montré quelque chose et ensuite qui avaient à gagner ensemble maintenant, à prouver qu'ils peuvent franchir un cap. Non, je te cache pas que le départ de Marseille a été très difficile. Mais en plus de ça, j'ai quand même eu une certaine appréhension parce que je me dis, mais attends, j'étais remplaçant en deuxième division il y a un an et demi. Je finis la saison à Marseille, donc ça fait deux ans et demi. Et là, on me dit, Didier, tu pars en Angleterre, à Chelsea, qui n'était pas le club qu'il est aujourd'hui, mais tu pars en Angleterre. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pas me planter? Ça va un peu trop vite. J'ai pas eu le temps de, tu vois, m'aguerrir la Ligue 1, 3, 4, 5 saisons, et puis allez, je m'en vais. Non. Là, à peine t'as marqué, on dit, bon, tu pars de l'autre côté. Donc c'est... Et les gens m'attendent. Je me dis, ah, est-ce que je vais être capable de faire ça? Est-ce que... Et puis, les deux premières années, même si je suis champion, ça a été difficile, parce que psychologiquement, je n'y étais pas. Et puis, je découvrais un nouveau rôle dans cette équipe. On en parle aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est un rôle de pivot. Mais j'ai tout de suite été emballé par l'idée d'être champion. J'avais jamais été champion, et pour moi, c'était « Ok, je me mets au service de l'équipe parce que je veux être champion. »
Et tu en as parlé, mais si tu peux développer comment, en tout cas par quels moyens tu es parvenu à t'adapter au football anglais?
Encore une fois, beaucoup de remises en question, d'humilité, parce que faut accepter de marquer moins de buts. Quand on a mis 32 et que tout le jeu de l'équipe passait par toi et que du jour au lendemain, bah, il faut partager parce que Robben peut marquer un but à lui tout seul. Duff, il peut marquer un but à lui tout seul. Joe Cole, pareil. Lampard, pareil. Bah, vous êtes plusieurs à le faire, donc il faut partager, quoi. Et puis, physiquement, il faut que tu continues à travailler parce que moi, c'est comme si j'étais tout neuf et j'avais encore une marge de progression. Et une fois que j'ai intégré ça, j'ai commencé à mon statut a commencé à évoluer au sein de ce club. Comme quoi, le physique, mais pas le physique, la musculation, c'est important, mais le physique, être capable de répéter les matchs et les performances de haut niveau, ça change tout, ça te fait prendre un autre statut au sein du club.
Si je devais garder qu'un souvenir de ton passage à Chelsea?
C'est difficile quand on fait 9 ans dans un club. C'est difficile. Non, je suis pas d'accord. Je veux pas.
Je te laisse m'en donner un en priorité et après déborder sur plusieurs.
Un en priorité, ma saison 2010, parce que là, c'est vraiment une saison maîtrisée de bout en bout et il y a tout dedans. Pied droit, pied gauche, tête, coup franc, passe décisive. Il y a tout. Il y a tout.
Okay, je pensais que tu allais mettre en avant la Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, c'est le résultat de tout un travail et de toute une réflexion d'une carrière qui dans ce club. La Ligue des Champions, c'est pour moi. Je dirais le résumé, le condensé de tout ce que j'ai appris, tant de mes échecs que de mes réussites pendant toutes mes années de footballeur. Avant.
Moi, je vais te parler d'un truc. Le match face au Barça.
J'étais sûr.
C'était évident. En plus, je suis fan du Barça.
C'est vrai?
Ouais. Et j'avais raté la deuxième mi-temps parce que j'étais trop jeune.
Je suis intervenu sur un doc hier avec. Tony Chaperon, justement sur ce match-là et les différentes
erreurs d'arbitrage. Justement, les gens connaissent son issue, donc beaucoup d'erreurs d'arbitrage en faveur du Barça pendant le match, avec un but d'Iniesta qui qualifie les Blaugrana à la fin. Mais ce qu'on retient surtout, c'est la fin du match sous haute tension, et toi ta colère. avec notamment le fameux...
On ne retient pas les erreurs d'arbitrage, mais on retient...
C'est un ensemble, mais te concernant, on retient beaucoup le « It's a fucking disgrace ».
Oui, parce que je suis un homme de vérité et que au final tout le monde se rend compte que nous les footballeurs on est des êtres humains comme vous tous, comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce qu'on passe à la télé que on est des martiens quoi. On a des émotions et moi en tout cas quand je subis une injustice. Je peux pas faire semblant. Je l'exprime et ça m'a valu parfois des sanctions que j'ai toujours trouvé sévères. Mais au final, c'est moi. C'est moi et je suis pas un hypocrite. Donc je préfère dire ce que j'ai à dire. Et là c'était trop flagrant. C'est trop flagrant. Alors beaucoup m'ont dit ouais mais il est fou. Moi c'est cette réaction c'est parce que j'ai perdu une finale l'année d'avant. Je reviens en début de saison, je ne joue pas avec le coach qui est arrivé. Changement de coach. Le monsieur me remet en confiance, Gus Hiddink me met en confiance et là j'enchaîne bam 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 et je me dis bon ok moi mon objectif. Mon carton rouge a rendu triste mes supporters. Je dois me racheter. Je veux emmener. Et mon président a perdu une finale chez lui. Et j'ai contribué à cette défaite plus ou moins en prenant mon carton rouge. Je dois me rattraper. Je lui dois ça. Donc quand on arrive à ce stade-là de la compétition, et j'ai dit à Tony Chaperon que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé avant. Moi, je sais. Et je pense que beaucoup de mes ex-coéquipiers ne savent pas ce qui s'est passé avant. Moi, je le sais. Donc ma réaction, elle n'est pas fortuite. Donc, voilà.
Est-ce quelque chose que tu arrives à... Enfin, est-ce que tu penses qu'un jour, tu arriveras à passer outre ce qui s'est passé ce jour-là, même 12 ans après? Ça reste un traumatisme encore aujourd'hui?
Mais non, moi, j'ai gagné ma Ligue des Champions. Par contre, si je ne l'avais pas gagné derrière, là, j'allais... Non, mais... Moi, je suis quelqu'un d'entier. Donc, j'ai exprimé mon sentiment. Et vous, c'est resté parce que ça, forcément, c'est vendeur, oui, donc, truc disgrace, là. Mais moi, je suis passé à autre chose. À partir du moment où des joueurs de Barcelone viennent me dire, Didi, je sais pas comment on a fait pour faire ce truc, mais je dis, ok, voyons. Si vous vous en rendez compte, tant mieux. Et puis, ouais, on passe à autre chose. Non, je ne suis pas là à me dire Barcelone. Non.
L'homme du peuple. Okay. En tout cas, là, on parle du Barça et d'une prise de parole forte dans le football. Mais parfois, tu arrives quand même à t'extirper du cadre sportif. Et je pense notamment à la fois où tu as contribué au retour de la paix dans ton pays en 2005.
Il voit rien. Du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux.
J'ai pas envie d'exposer le contexte à ta place. J'aimerais bien que tu m'en reparles.
Non, j'ai, en fait, si tu veux, c'est... Bon, on est dans un contexte social en Côte d'Ivoire qui est compliqué. Beaucoup de tensions au niveau des politiques. Et le pays est divisé en deux semaines après un match de l'équipe nationale à Abidjan. Et nous, on joue les qualifications pour la Coupe du Monde et on arrive à se qualifier. Et puis ce jour-là, ben, pourquoi, je pourrais même pas te l'expliquer. Je pense que c'est juste un je sais pas, t'es de quelle origine ?
Camerounais.
Voilà, si par exemple, toi, tu as vécu au Cameroun, tu...
Les Maliens aussi, au cas où aussi.
Voilà, que... tu vois. Ben voilà, tu vois, le Mali, aujourd'hui, il y a une situation qui n'est pas la même que la nôtre, mais il y a une situation, et puis tu sens que ton pays souffre, que tes concitoyens souffrent, et tu arrives à leur donner du bonheur grâce à tes qualifications. Tu te sens dans une position de t'exprimer, de dire, vous savez quoi, nous on a réussi à vous donner ça là. Nous, s'il vous plaît, on veut juste la paix. On veut juste la paix. Donc c'est parti d'un truc. D'une émotion, encore une fois, comme je te dis, je dis ce que, si j'ai l'occasion de le faire, je dis ce que je ressens, et mais sans savoir que ce message allait être divulgué, et puis, enfin, que ça allait se propager, ça allait être revu et vu dans tous les JT, je me doutais pas de l'impact de ce message. Et ça a fait tous les JT du midi et du soir pendant 6 mois. Et indirectement, c'est là qu'on se rend compte, de l'impact du sport.
Je sais qu'en off, tu m'as parlé, enfin, t'aimes pas trop parler des regrets. Mais tu restes le meilleur buteur de ta sélection. T'as fait partie d'une génération dorée. Je pense à Zokora, je pense à Kalou, je pense aux frères Touré, Gervinho.
Ouais.
J'en passais des meilleurs. Mais t'es jamais parvenu à gagner la CAN.
Ouais.
Est-ce que ça reste quand même une petite tache noire dans ton parcours ou un éternel regret?
Sincèrement, quand tu vois d'où je suis parti et ce que j'ai pu réaliser, sincèrement, c'est au-delà de mes espérances. Tu vois, même mes rêves les plus fous, je les voyais pas comme ça. Mais c'est vrai que en tant que compétiteur, tu te dis, ah, j'aurais aimé faire la photo avec ce trophée, tu vois. C'est comme la Coupe du Monde, tu te dis, ah, une petite photo de moi avec le trophée, c'est pas mal quand même, tu vois. Donc ça, c'est une frustration. Et puis, pour la Côte d'Ivoire, enfin, moi, pour la Côte d'Ivoire, c'est une manière de leur redonner tout l'amour qu'ils m'ont donné. Et donc oui, c'est dans ce sens-là, c'est un regret, une frustration. Mais pour mon palmarès personnel, ouais, c'est une ligne en moins sur tout ce que j'ai gagné. Mais pour mon pays, je sais que ça aurait été un truc extraordinaire. Mais je pense avoir eu l'opportunité de leur faire vivre des émotions fortes, mais en toute humilité. C'est pas une CAN, mais on voyait son pays en Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire du pays. Voilà, c'est pas négligeable.
Donc ça n'entache absolument pas le statut de meilleur joueur ivoirien qu'on te colle à juste titre.
Ça sert à rien de décider. Moi, j'ai fait que jouer, et puis après, ça va être décidé.
Dans ce système un peu de comparaison, où les choses auxquelles on t'a étiqueté toute ta carrière, mm-hmm. il y a la comparaison avec Samuel Eto'o.
Ouais.
Je pense que depuis que je suis petit, j'entends toujours les débats Drogba et Eto'o. Est-ce que toi, t'estimais... Enfin, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison? Est-ce que t'estimais qu'elle était justifiée? Et en quoi ça a pu jouer, si ça a joué d'ailleurs, sur ta carrière, que ce soit toi ou Samuel?
Non, moi, ça n'a pas joué sur ma carrière parce que je ne fais pas ma carrière par rapport à un autre joueur. Il se trouve que lui a commencé le haut niveau bien avant moi, puisqu'il était déjà dans un club comme Madrid ou Mallorca. Moi, j'étais à Guingamp. Moi, j'étais remplaçant en deuxième division. Donc, je me compare pas à lui. Moi, j'ai fait ma carrière pour voir jusqu'où j'étais capable d'aller. Pas pour me dire, ah, je vais me comparer à lui. Ah, il a marqué, je vais marquer demain. Ou il a marqué, j'ai marqué. Ah, faut pas qu'il marque ou un truc comme ça. Moi, je suis pas dans cet état d'esprit. C'est pas ma philosophie. C'est pas comme ça que j'ai été éduqué. Donc, à la rigueur, tout ce qui se dit dehors par rapport à tout ça, je trouve ça dommage que les gens cherchent à diviser en disant « Ouais, mais lui, il a fait ci, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça, ah, lui, un tel a fait ça. » Alors qu'aujourd'hui, tout ce dont l'Afrique a besoin, c'est au contraire de dire « Tiens, voilà deux forces vives du continent. Portons-les, poussons-les. » Parce qu'on a besoin de ça. Parce que vous ne savez pas à quel point c'est difficile. Alors, nous, on perd notre temps à faire des débats pas forcément sportifs, mais tu vois, ça va souvent même au-delà de ça, à se chamailler comme ça. Alors que pour nous, évoluer en Europe, ça n'a jamais été facile. Donc on sait à quel point c'est difficile, mais voilà, au final, moi j'estime que ces deux joueurs-là dont je fais partie ont permis au continent d'avoir une place meilleure sur la scène mondiale. Voilà, maintenant, aux jeunes de prendre la relève. Nous, on a fait notre part. À eux maintenant de jouer, tout comme l'ont fait nos prédécesseurs, les Georges Weah, les Roger Milla et compagnie. Et puis si cette concurrence nous a permis peut-être de produire des performances exceptionnelles, respectivement, tant mieux quoi. Mais vraiment, moi je suis loin, loin, loin de toutes ces comparaisons.
L'après-carrière.
On va vite passer, mais tu as pris ta retraite après avoir connu plusieurs expériences à l'étranger, donc que ce soit la Chine, la Turquie, le Québec, où tu as gagné quand même quelques trophées. Ça t'a fait quoi de passer de ce quotidien de footballeur où tout était à 100 à l'heure à celui de joueur retraité, où même tu pouvais peut-être plus t'adonner à ton rôle de père de famille et passer plus de temps avec tes enfants?
C'est pire. C'est pire maintenant que pendant ma carrière. Pendant ma carrière, j'avais du temps. Tout était bien plus encadré. C'est-à-dire que tu as entraînement le matin, l'après-midi, tu as un peu de liberté, où tu fais tes soins. Voilà. Mais là, c'est... mes journées sont intenses. Je suis arrivé en retard parce que j'ai fait un rendez-vous juste avant qui s'est prolongé et après, bon. Bref. Je trouve que c'est bien plus difficile maintenant que pendant que je jouais. Mais je suis content quelque part parce que ça me garde actif. Et aujourd'hui, comme les jambes ne répondent plus comme avant, c'est mieux que le cerveau prenne le relais. Donc je suis vraiment content.
T'avais quel objectif en candidatant en tant que président à la Fédération ivoirienne de football?
D'apporter ma pierre à l'édifice au développement du football ivoirien, ou contribuer à développer un cadre pour que les jeunes puissent se développer, puissent s'exprimer. Et pour certains, pour les meilleurs, continuer leur carrière là où ils le souhaitent. Mais pour ceux qui sont moins, qui ont moins de chance, de pouvoir rester là en Côte d'Ivoire et puis vivre de leur métier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un joueur ivoirien qui peut se targuer de vivre de son métier. Et je trouve ça dommage. Et l'Afrique est un continent jeune. Et si on n'encadre pas cette jeunesse d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la fédération ou autrement, on va continuer de les ramasser à la pelle dans la Méditerranée ou dans des pays où ils sont réduits quasiment à l'esclavage.
T'as pris comment cet échec au premier tour?
Comme la décision d'un collège électoral qui a décidé d'aller dans une autre direction.
Le Ballon d'Or. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve par rapport au Ballon d'Or. C'est un trophée que tu n'as jamais remporté. Au-delà de te demander si c'est un regret de ne pas l'avoir remporté, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu méritais de l'avoir?
D'abord, mon meilleur classement, ça a été quatrième.
En 2007,
ouais. Et c'était le meilleur classement d'un joueur africain, hors Georges Weah. Depuis pas mal d'années, et Sadio a égalisé, et je pense que il a tout le potentiel pour un jour le soulever, ce trophée. Je pense que oui, 2007, c'est une année charnière. Parce que si je remporte la Ligue des Champions avec Chelsea et que ma frappe avant la prolongation, au lieu de taper le poteau et sortir et taper le poteau et rentre, c'est pas la même histoire.
Ok.
C'est pas la même histoire. Voilà. Donc c'est c'est pas au niveau en fait ce sont des faits de jeu, mais j'aime pas le mot regret, parce que quand on dit regret c'est comme si ça te tracasse toute ta vie et tout. Non, moi c'est des récompenses individuelles, j'en ai eu, et c'est vrai que celle-là c'est quelque chose de différent. C'est ce ballon, il est magnifique, mais je ne courais pas après ça. Si, je ne courais pas après ça. Je ne courais pas après les stats, je ne courais pas. Moi, je courais après le plaisir que je prends sur un terrain de foot. Les émotions qu'un match de foot me procure.
Okay. Là, on se voit quand même pour l'édition 2022.
Oui.
Est-ce que tu as quand même un favori en tête ?
Oui, j'ai un favori. Tout comme j'avais un favori l'année dernière et tout comme j'ai un favori tous les ans.
Est-ce qu'il s'aligne sur les pronostics ?
Je ne sais pas quels sont les pronostics.
Karim Benzema.
Ah, ça, ce sont des pronostics.
Ok, toi, tu vois qui en tant que lauréat cette année?
Mais je ne peux pas le dire, parce que j'ai beaucoup d'amis qui seront là lundi. Des joueurs qui sont, eux, encore en activité. Et je ne veux pas que mon téléphone sonne après cette interview pour qu'on me dise « Ouais, mais t'as vu, mais pourquoi t'as dit un tel ? Pourquoi ?» Laissez-moi tranquille. Moi, je suis maître de cérémonie. J'ai cette neutralité. Que je dois observer, et j'essaie de le faire le mieux possible.
Adigé, on arrive à la fin de l'interview. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a un sujet ou un thème que tu aurais aimé aborder et dont on n'a pas parlé ?
Je pense qu'on a fait le tour, non ?
J'ai l'impression.
Tu penses aussi ? C'est bien alors, tant mieux.
Merci Adigé.
De rien, plaisir. Plaisir.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de La Vraie Interview présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast La Vraie Interview sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.